Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités, que ce soit pour l'Union européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons d'un communiqué condamnant les refoulements généralisés des migrants en Europe, de la protection des enfants et d'un arrêt récent de la CEDH sur les violences faites aux femmes. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous parlerons du DMA, de la visite de Ursula von der Leyen en Ukraine, entre autres. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, la présidente de la Commission européenne est le premier haut dirigeant de l'Union européenne à se rendre à Kiev depuis la découverte des massacres à Boutcha. Elle est venue exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine, à la veille d'une importante levée de fonds solidaire organisée à Varsovie. Vendredi 8 avril, le président Volodymyr Zelensky a symboliquement reçu la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est la première fois qu'une figure européenne de premier plan se rendait dans la capitale ukrainienne depuis la révélation des atrocités commises sur des civils à Boutcha. L'UE a également répondu aux appels répétés de Volodymyr Zelensky à fournir du matériel militaire, alors que l'armée russe, repliée à l'est, tente à présent de prendre le contrôle de la totalité du Donbass. Le premier ministre slovaque, Eduard Heger, a attendu d'être à Kiev pour confirmer que son pays avait fourni le système de défense aérienne S-300 à l'Ukraine. Joseph Borrell s'est dit confiant sur le fait que les 27 accepteront sa proposition de faire passer le fonds d'aide militaire à l'Ukraine de 1 à 1,5 milliard d'euros. Ensuite, le texte européen sur les marchés numériques devrait constituer une référence mondiale. Il pourrait même obliger les géants de la technologie à être plus innovants. Selon les juristes et les experts, la réglementation européenne vise les 5 entreprises qui dominent le secteur: Google, Amazon, Apple, Meta et Microsoft. La semaine dernière, la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a obtenu le soutien des États membres de l'UE et des eurodéputés. Sa proposition de législation sur les marchés numériques, Digital Market Act, DMA en anglais, vise à limiter les pouvoirs des géants numériques. Pour la première fois, il s'agit de légiférer et non pas de mener de longues enquêtes antitrust. Au total, elle fixe une vingtaine de règles pour enrayer les abus constatés ces dernières années. Le texte prévoit des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction, voire 20% en cas de récidive. Par ailleurs, le Parlement européen a réclamé dans une résolution adoptée jeudi 7 avril 2022 l'imposition d'un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz russe. La résolution pour un embargo total et immédiat des importations de pétrole, de gaz et de charbon russe a été votée par 513 eurodéputés avec 22 voix contre et 19 abstentions. La position du Parlement est claire et envoie le plus fort des messages de soutien à ceux qui se trouvent sur la ligne de front, a commenté la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, après le vote de cette résolution non contraignante. De plus, la Banque européenne d'investissement, BEI, a approuvé de nouveaux financements pour un montant total de 791 millions d'euros à l'appui des énergies renouvelables, de la santé, de l'eau ainsi que l'aménagement rural et urbain. Il y a 310 millions d'euros pour des investissements dans les énergies renouvelables et l'eau dans toute l'UE, mais aussi 316 millions d'euros pour l'aménagement urbain et rural, notamment dans le sud de l'Espagne et en Pologne, ou encore 150 millions d'euros pour des meilleurs soins de santé, notamment dans la rénovation de plusieurs hôpitaux dans l'UE. Et enfin, 15 millions d'euros pour les communications haut débit qui va principalement concerner la France, l'Espagne et l'Italie. D'autre part, le Comité européen de la protection des données, CEPD, a adopté le 14 mars 2022 des lignes directrices portant sur l'utilisation de dark patterns sur les plateformes des réseaux sociaux. Les dark patterns peuvent être définis comme des choix d'interface et d'expérience utilisateur qui peuvent amener lesdits utilisateurs à prendre des décisions involontaires et potentiellement préjudiciables pour la protection de leurs données à caractère personnel. Au-delà d'un effort de définition et de catégorisation des dark patterns, ces lignes directrices incluent les recommandations pratiques et opérationnelles pour les concepteurs et les utilisateurs des réseaux sociaux afin de lutter contre ce phénomène. Une étape supplémentaire en faveur de l'implémentation concrète du RGPD, Règlement général sur la protection des données, dont les implémentations pratiques se précise au fil de textes réglementaires de droit dur, mais aussi de textes de droit souple, comme ces lignes directrices qui servent régulièrement de fondement aux décisions des autorités de contrôle. Enfin, l'entreprise Nord Security, notamment connue pour son logiciel NordVPN, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 100 millions de dollars, soit 91 millions d'euros. Cette première levée de fonds permet à la société lituanienne de rentrer dans le cercle plus si fermé des licornes européennes dont nous avons déjà parlé dans des épisodes précédents. Fondée en 2012 à Vilnius, elle compte 1700 collaborateurs auxquels s'ajoutent 200 nouvelles personnes prochainement recrutées. Nord Security revendique ainsi le statut de plus gros employeur dans les technologies dans la capitale lituanienne. Valorisé à 1,6 milliard de dollars, soit 1,47 milliard d'euros, les millions récoltés doivent permettre à Nord Security de maintenir sa croissance. Elle s'attachera à gagner de nouveaux clients et conquérir de nouveaux pays pour ces outils à destination des particuliers comme des entreprises. Passons maintenant à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, si les réfugiés ukrainiens sont accueillis à bras ouverts par les pays de l'Union européenne, ce n'est pas le cas de tous les migrants et réfugiés. Dans un rapport publié ce jeudi, le Conseil de l'Europe dénonce le refoulement généralisé de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants aux frontières terrestres et maritimes de l'Europe. Le phénomène a pris de l'ampleur et serait devenu un problème pan-européen systémique. Le document s'appuie sur des rapports d'ONG qui ont, par exemple, dénombré entre 50 et 130 procédures de refoulement par jour pendant l'été 2020, et jusqu'à 170 en octobre de la même année, de la France vers l'Italie dans le département des Alpes-Maritimes. Ce rapport souligne aussi que dans certains pays, l'usage de la violence envers les réfugiés est grave et systémique. Il fustige la tendance de certains États à vouloir adopter des lois légalisant les mesures de refoulement. Le Conseil de l'Europe, vigie des droits humains sur le continent, demande donc aux États membres de mettre fin à ces refoulements et de respecter leurs obligations légales vis-à-vis des réfugiés en ne les renvoyant pas de l'autre côté de la frontière sans une procédure individualisée ni sans droit à un recours effectif. Il exige aussi que les États mettent en place des règles de conduite et des procédures standardisées claires et obligatoires pour les autorités en charge du contrôle aux frontières afin de traiter les réfugiés de manière conforme aux droits humains. Ensuite, la réponse aux défis soulevés par l'augmentation considérable et l'exploitation d'images et ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par des enfants constitue le thème central du nouveau rapport de mise en œuvre présenté par le comité de Lanzarote du Conseil de l'Europe à Rome. Le rapport analyse la situation de 43 États membres partis à la Convention de Lanzarote et met en évidence les moyens d'améliorer leur cadre juridique, de prévenir cette forme particulière d'exploitation sexuelle des enfants, de lancer des enquêtes et des poursuites, et d'améliorer l'identification et la protection des victimes. Les enfants ont pour la première fois participé directement au processus de suivi. Le rapport de mise en œuvre reflète ainsi le point de vue de plus de 300 enfants issus de 10 États européens concernant les défis soulevés par le matériel à caractère sexuel autogénéré par des enfants. Et certaines recommandations du comité sont fondées sur ces points de vue. Tout d'abord, le rapport incite à utiliser l'expression « matériel d'abus sexuel sur enfants » au lieu de « pornographie enfantine ». Qui peut être trompeuse et peut sembler minimiser la gravité des infractions ou rejeter la faute sur l'enfant. Pour mieux protéger les enfants contre l'exploitation et les abus en lien avec du matériel à caractère sexuel autogénéré, le comité de Lanzarote recommande également d'apporter certains changements législatifs. Le comité recommande de créer une infraction spécifique couvrant l'extorsion sexuelle sur des enfants et de mettre en œuvre des enquêtes et des poursuites efficaces concernant cette infraction ainsi que les autres infractions sexuelles commises à l'encontre d'enfants facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, face au changement climatique, à la pandémie de Covid-19, à l'agression menée actuellement par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, garantir et protéger les droits des enfants dans les situations de crise ou d'urgence est l'une des nouvelles priorités de la stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant 2022-2027, lancée lors d'une conférence de haut niveau à Rome. Les autres priorités de la stratégie sont les suivantes. Une vie sans violence, l'égalité des chances et l'inclusion sociale, l'accès aux technologies et à leur utilisation sûre, une justice adaptée aux besoins de tous les enfants et donner la parole à chaque enfant. Enfin, dans l'arrêt Y et autres contre Bulgarie rendu par la CEDH le 22 mars 2022, elle a dû se prononcer sur l'assassinat d'une femme par son mari. L'affaire porte sur des griefs formulés par la mère et les filles d'une femme tuée par son époux. Cette dernière, Madame V, fut abattue par son mari dans un café de Sofia où elle s'était rendue juste après s'être présentée au bureau du parquet pour signaler que son mari détenait une arme de poing et qu'elle craignait pour sa vie. Elle avait formulé à plusieurs reprises des plaintes similaires au cours des années et des mois ayant précédé son meurtre. dénonçant le comportement hargneux, violent et obsessionnel de son mari à son égard. La cour juge en particulier que les autorités n'ont pas répondu avec la promptitude requise aux plaintes crédibles de Madame V et n'ont pas correctement évalué le risque auquel celui-ci était exposé au regard du contexte particulier et de la dynamique de la violence conjugale. Si elle l'avait fait, elle aurait compris que le mari de Madame V représentait un risque réel et immédiat pour la vie de celle-ci, et elle aurait pu lui confisquer son arme, l'arrêter pour non-respect de l'ordonnance d'éloignement prononcée contre lui et ou placer Madame V sous protection policière. Le droit interne bulgare leur offrait la possibilité d'adopter pareille mesure qui aurait pu parer au danger qui pesait sur Madame V. En revanche, rien ne prouve que les autorités bulgares, en général, ou les seuls policiers en charge du dossier de Madame V, aient manifesté une quelconque tolérance à l'égard de la violence contre les femmes. La Bulgarie est donc condamnée par la Cour pour violation de l'article 2 sur le droit à la vie et de l'article 14 sur l'interdiction de discrimination de la CESDH. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte Instagram officiel du podcast Une certaine idée de l'Europe. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.